Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci effectivement d'être là, d'accepter ce jeu auquel malheureusement on s'habitue depuis presque un an. J'aurais adoré hein, vous rencontrer en vrai. Là, j'ai un peu l'impression d'être fou à parler tout seul devant mon ordinateur. Mais je sais que vous êtes là au fond et merci de votre indulgence pour cet exercice-là. Bah, c'est un rendez-vous important qui est le nôtre aujourd'hui, c'est-à-dire que vous êtes les visages que je vais sans doute rencontrer pour les probablement 10 prochaines années. Donc, je suis absolument ravi de vous rencontrer aujourd'hui. Peut-être que je me présente rapidement. Je suis actuellement directeur du Centre dramatique national de Normandie à Rouen. Je suis dans ma 8e année, ouais, c'est ça. Voilà, j'arrive au bout de mon mandat et j'aurais tranquillement terminé s'il ne s'était présenté la formidable opportunité de diriger un théâtre qui me fait rêver depuis longtemps, qui me fait rêver pour son histoire, qui me fait rêver aussi pour son implantation dans une ville que j'aime pour sa réalité géographique au cœur de l'Europe. Que j'aime aussi pour son identité qui s'est forgée par la culture, enfin son identité en tout cas récente, et un théâtre qui me fait rêver aussi du fait de la présence de l'école. Je suis à un moment de ma carrière où à la fois je sens que je suis en capacité de partager certains outils qui sont les miens, et à la fois je suis encore assez actif, et donc c'est plutôt un bon moment pour imaginer partager. Voilà le cœur artistique qui est le mien et pour avec des générations qui arrivent. Je suis né en Normandie. J'ai fait des études plutôt de cinéma. C'est plutôt à cet endroit-là que je m'orientais jusqu'à ce que le théâtre croise le chemin du théâtre et que je me dirige pleinement à cet endroit-là. Pendant 10 années, j'ai travaillé plutôt avec des auteurs et autrices vivants, plutôt en essayant d'imaginer un petit peu le théâtre qui était le mien, c'est-à-dire celui d'un 21e siècle tout nouveau. Essayer de mettre des mots sur la période contemporaine, essayer de définir un petit peu ce qui pouvait être l'identité de cette génération qui était la mienne et qui devait commencer une histoire encore assez vierge. Et je n'ayant pas fait d'école de théâtre réellement, j'ai peu défini les limites et les frontières du champ théâtral. C'est-à-dire que j'ai très vite été exploré du côté de la danse, du côté du cirque, du côté du cinéma et de l'image, du montage et du mouvement, évidemment, puisque telle était ma formation, et puis du côté des arts visuels aussi. Et donc, me baladant comme ça d'une discipline à l'autre, en affirmant la transdisciplinarité, c'est-à-dire pas la pluridisciplinarité où les disciplines se collent les unes aux autres, mais vraiment la transdisciplinarité, c'est-à-dire comment elles se traversent les unes les autres pour définir un théâtre un peu à l'image du monde d'aujourd'hui et de notre façon d'être. Voilà. Ouh, mon Dieu. Cette espèce de transdisciplinarité-là au service de moyens spectaculaires m'a permis d'affirmer des spectacles très populaires. Et il y a une dizaine d'années à peu près, j'ai commencé à travailler sur les grands textes du grand répertoire. Et toute cette énergie, tous ces codes très contemporains et assez populaires, je les ai mis au service de ces grands textes. Et là, j'ai découvert la capacité fédératrice de ces grands titres, de ces grands auteurs, de ces langues incroyables, de ces récits qui sont les nôtres et de l'importance de les partager. Et ces outils du 21e siècle m'ont permis simplement de donner à entendre aujourd'hui ce que des auteurs et des autrices qui ont vécu longtemps avant nous et ailleurs peuvent nous apprendre aujourd'hui sur notre monde d'aujourd'hui. Ma démarche est la même, qu'il s'agisse de textes contemporains ou de textes de répertoire, c'est toujours essayer de rencontrer par la dramaturgie la nécessité à tenir, à faire œuvre et à la partager avec le plus grand nombre. Aujourd'hui, je suis metteur en scène donc de théâtre. Encore une fois, en n'opposant pas le texte contemporain du texte de répertoire. D'ailleurs, la ligne de démarcation pour moi entre contemporain et classique n'existe pas vraiment. parce que par exemple un Calderon ou un Shakespeare, j'ai du mal à les classer, à les ranger du côté des classiques. Donc pour moi, il est question plutôt du répertoire, du grand répertoire dans lequel je mets le 20e siècle. Un Ionesco n'est pas contemporain. Et donc la ligne de démarcation, en fait, c'est les auteurs vivants, les autrices vivantes et les grands auteurs. Ma démarche, la particularité d'un CDN comme le Théâtre du Nord, c'est d'être dirigé effectivement par un artiste. De sa démarche artistique naît tout le projet artistique, naît l'entièreté des actions de médiation, naît l'entièreté de la gestion des équipes. Enfin, voilà, le projet naît vraiment au cœur de cette pratique-là. C'est vraiment l'idée de se servir de la capacité créatrice d'un artiste pour emmener un théâtre et la politique culturelle qui l'accompagne. Donc le projet artistique tourne évidemment autour de la question des textes. Et c'est logique au Théâtre du Nord parce que ce théâtre-là a une histoire d'amour avec la littérature dramatique. Ce théâtre a aussi une mission complémentaire par rapport aux programmations des autres scènes qui sont nombreuses autour de la métropole lilloise et qui sont sur des axes très transdisciplinaires, très pluridisciplinaires, très contemporains. Et je crois qu'il y a une particularité au Théâtre du Nord que de défendre aussi un endroit d'un théâtre de texte. Et puis aussi parce que la présence de l'école invite à une certaine idée de la transmission et que ces textes-là forment, enfin, comme le disait mon prédécesseur, des grands textes forment des grands acteurs, et ça, j'en suis convaincu. Et encore une fois, des textes, certes, mais pas n'importe comment. Je vais m'intéresser à produire et à programmer des spectacles qui sont plutôt des démarches d'auteurs et d'autrices, qui ont des nécessités à s'exprimer aujourd'hui et à partager avec leurs contemporains. Et avec les moyens du théâtre contemporain. Ça me semble important. L'idée, ce n'est pas du tout de faire un espace conservatoire et muséal, c'est vraiment de trouver la vivacité de ces écritures-là aujourd'hui. Donc, en gros, la programmation, je pense la partager entre une moitié de textes du répertoire, donc du grand répertoire, encore une fois, incluant le XXe siècle, et de textes d'auteurs et d'autrices vivants aujourd'hui. Pour m'accompagner dans cette histoire-là, je vais vous présenter rapidement Blandine Dujardin, qui est là, qui sera directrice adjointe, en charge aussi plus particulièrement des actions de territoire et envers les publics. Je vous présente aussi Caroline Lozé, directrice de production, qui est là, que vous voyez. Et qui est lié au projet artistique, évidemment. Et Ronan Inard, qui est juste là, qui est notre hôte aujourd'hui, et qui sera secrétaire général. On aura l'occasion de reparler un petit peu de ses missions. J'ai aussi proposé à des artistes de m'accompagner dans cette aventure, en tout cas pour le premier mandat. Trois artistes associés. D'abord Armel Roussel, qui est un metteur en scène très reconnu en Belgique, qui est aussi un enseignant à l'école nationale, qui défend une approche un peu folle de la dramaturgie des grands textes du répertoire. C'est vraiment l'endroit que j'aime chez lui. Il a une lecture extrêmement fine et vraiment brillante de ces grands textes, et en même temps il n'hésite pas à les bousculer comme on peut le voir beaucoup en Allemagne ou en Pologne, en Russie, et qu'on voit finalement assez peu ici en France, c'est-à-dire malmener un peu les textes pour en donner toute la saveur. Et je trouve ça, il a une démarche vraiment vraiment assez unique et assez géniale. Aussi Eva Doumbia, qui est une metteuse en scène franco-malienne et qui travaille sur des récits et qui met en lumière des récits, des histoires, des profils, des personnes qu'on ne voit peu, qu'on ne voit que trop peu ou pas du tout, ou alors dans des assignations assez terrifiantes d'une partie de la population française. Je veux parler des afro-descendants. Voilà. Et puis, troisième artiste associé, Virginie Despentes, avec qui j'ai le bonheur de travailler et qui se rapproche de plus en plus de la scène ces dernières années et qui écrira sa première pièce de théâtre depuis le Théâtre du Nord, qui sera montée, qu'elle montera au Théâtre du Nord. Et elle sera artiste associée aussi dans un accompagnement d'autres auteurs, dans une espèce de compagnonnage, et des élèves auteurs de l'école. On en reparlera. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre, et aussi Isabelle ou Ronan, Blandine, n'hésitez pas aussi à me venir en aide. Ok. Un CDN, c'est d'abord un lieu de création. Donc, la question de la production, elle est évidemment capitale. C'est Caroline Lezé qui aura en charge ce pôle de production. C'est d'ici que naîtront les spectacles qui vont tourner, rayonner en France et à l'étranger. Et on a en projet, après avoir discuté avec l'ensemble des lieux de Hauts-de-France, l'idée de réfléchir à comment inventer une plateforme de production à la faveur des compagnies régionales pour essayer de, à la fois, faire bénéficier ces compagnies, les compagnies qui seront choisies de sommes de coproduction et de production déléguée assez conséquentes, des montants qu'on n'a plus l'habitude de voir aujourd'hui, en mutualisant nos moyens. Pour chacun, c'est un petit billet, mais réunis, ça fait quand même des montants qui sont appréciables et qui permettent de réimaginer, d'investir des grands plateaux, etc. etc. Et puis aussi, et peut-être surtout, une possibilité de diffuser dans chacun des lieux partenaires et donc d'offrir aux compagnies un ancrage territorial qui est finalement assez rare. C'est une région où, je l'ai bien identifié, hein, les gens travaillent assez bien ensemble, mais travaillent assez bien ensemble à deux. Souvent dans des collaborations comme ça, bipartites. Et ce qui serait assez beau, c'est qu'un lieu comme le Théâtre du Nord puisse être le moteur d'un partenariat un peu plus grand entre les lieux labellisés ou non de cette région qui est particulièrement culturellement bien dotée. En ce qui concerne la programmation, évidemment, c'est la partie visible de ce projet artistique. Elle va réunir des grands noms connus nationalement et internationalement, et aussi une place importante que je veux laisser à l'émergence. Évidemment, cette programmation, elle répond à un certain nombre d'indicateurs, qui sont les indicateurs du ministère de la Culture, aussi des collectivités territoriales. Voilà, un certain nombre de titres, un certain nombre de d'indicateurs. Mais à ces indicateurs-là, je veux pouvoir ajouter d'autres objectifs qui sont des indicateurs responsables. Par exemple, qui sont guidés par peut-être une certaine idée de l'égalité et donc du service public en République française. Égalité entre les hommes et les femmes. Par exemple, la programmation sera parfaitement paritaire. Mais au-delà de simplement la visibilité d'une programmation égalitaire, c'est peut-être dans le partage des moyens de production que se joue très clairement une réelle avancée. On se rend compte que les femmes sont souvent moins subventionnées, moins produites, moins accompagnées que les artistes hommes, et donc produisent des spectacles qui sont sans doute plus intimes, plus modestes, moins de décors, moins de comédiens au plateau, et finalement ont du mal à s'emparer des grands plateaux, et par la force des choses ont du mal à se positionner à la tête des grandes institutions. Donc je pense que c'est notre devoir, c'est pas simplement une volonté comme ça féministe, c'est simplement un devoir que de partager ces moyens de production à l'égalité. L'égalité qui va se retrouver aussi sur les questions de diversité, c'est un des grands combats de ma vie, une des choses qui me rend le plus fier de tout ce que j'ai pu faire dans mon parcours, en créant un collectif militant qui a mis en valeur le manque de diversité dans la culture de France, une culture qui oublie un tiers de sa population, si j'en crois la première étude de statistiques ethniques de l'INED, validée par le DEPS et validée par le Défenseur des droits, comme scientifiquement juste et juridiquement utilisable, qui mettait en avant que 30% de la population française n'était pas considérée comme blanche. pouvait ne pas être considérée comme blanche. Donc dès lors, une culture qui, lorsque j'ai commencé à œuvrer sur ces questions, une culture qui met à l'écart un tiers de sa population, elle pose question, surtout quand il s'agit du service public. Donc je n'ai eu de cesse que d'œuvrer à cet endroit-là, à la fois à un endroit plutôt militant et à la fois à un endroit plus institutionnel, c'est-à-dire au sein du ministère de la Culture, dans le Collège de la Diversité, qui était piloté pendant plusieurs années par les différentes ministres de la Culture. C'était des femmes à cette époque. Ouais. Donc ça me vaut tous les noms d'oiseaux, vous imaginez bien. Vous avez dû voir passer quelques articles venus de l'extrême droite ou même dans un magazine comme Marianne, mais écrit par une journaliste qui a l'habitude de décrire la valeur actuelle et d'en causeur. Donc voilà, ça me vaut tous les noms d'oiseaux dès lors qu'on n'est pas raciste. Tout de suite, aujourd'hui, des mots se créent, des mots s'inventent, islamo-gauchisme, indigénisme, que sais-je. Voilà, la seule chose, c'est que j'essaye de défendre une culture qui ne soit pas raciste. L'égalité se joue dans la programmation aussi à l'endroit territorial, avec un quart de la programmation que je souhaite, donc je vais y aller doucement, là je rencontre les équipes, hein, mais que je souhaite ouverte aux propositions régionales. La moitié de la programmation sera ouverte aux propositions nationales, que les Lillois et les habitants des Hauts-de-France ont le droit d'avoir une fenêtre sur la création nationale. Et puis le quart restant sera ouverte à des propositions internationales. L'égalité se joue aussi à l'endroit du handicap. Je souhaite que, bah pour commencer, un tiers de la programmation soit rendu accessible aux différents champs du handicap sensoriel ou psychique. Un tiers pour commencer, puis on verra si on arrive à augmenter petit à petit, d'année en année. Et puis, une autre égalité qui est un projet de longue haleine, l'égalité entre celles et ceux qui vivent aujourd'hui et celles et ceux qui vivront demain. Que nous puissions nous poser réellement la question de comment améliorer l'impact de nos actions culturelles et artistiques aujourd'hui sur les activités des générations qui vont nous suivre et qu'on ne se comporte pas comme des sagouins. Donc ça passe par évidemment l'enchaînement de pas mal de gestes écologiques, le recours à l'énergie verte, la réduction, le tri, le recyclage des déchets. Je parle par exemple évidemment des déchets habituels, mais je parle aussi des décors de théâtre, qui au lieu d'être bénés, peuvent être réinventés et servir à d'autres que nous. Je parle du matériel informatique, etc., etc. Ça passe par l'éco-compensation des déplacements, peut-être une participation, une éco-taxe. Une participation écologique aux ventes des spectacles qui permettrait d'éco-compenser par des systèmes de reforestation ou de choses comme ça sur les déplacements des décors, sur les déplacements des personnes, enfin, ce genre de choses. Mais on sait bien que le développement durable ne peut pas se penser juste par l'accumulation de gestes écologiques, mais qu'il passe aussi par une réelle pensée du social et de l'économique à l'endroit des personnels. Donc voilà, c'est un chantier RSE, responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, que j'entends bien mener avec l'ensemble du personnel du Théâtre du Nord pour essayer de faire de ce théâtre un véritable laboratoire d'égalité, une véritable expérience de partage. Et à mon sens, ouais, la traduction des valeurs qui sont censées être les nôtres. Dans le pays qui est le nôtre. Voilà. L'implantation entre Lille et Tourcoing du Théâtre du Nord est assez géniale, évidemment, puisque ça pose la question de la centralité et de la périphérie. Ça pose la question, effectivement, d'un cœur de métropole et de l'implantation au cœur d'un quartier. Ça pose la question de la circulation de l'un à l'autre. Et ça pose la question aussi de quelle culture et d'où vient-elle? Une culture qui se partage, évidemment, depuis l'institution, mais aussi une culture qui se découvre. Je parle évidemment un peu de droit culturel là. Et c'est vrai que Tourcoing nous invite à vivre au cœur d'un quartier, au cœur d'une ville, au cœur de son dynamisme, au cœur des cultures multiples qui sont sur le, sur ce site, des différents acteurs culturels qui sont là, des différentes associations sociales, artistiques, culturelles, et d'imaginer comment ce théâtre qui est là, qui mène déjà de très très belles actions, hein, par exemple l'action contre l'illettrisme, mais juste, enfin voilà, un chef-d'œuvre d'urgence. Donc j'ai bien sûr bien l'intention de faire vivre ce lieu avec cette idée au cœur d'aller à la rencontre des autres et puis de les inviter à s'emparer de ce lieu qui est un lieu public. Aller à la périphérie et fréquenter le centre. C'est un peu la façon que j'ai eue de penser le pôle public. Parce que ce n'est pas exactement le même métier que d'aller faire. Parfois prennent du temps, parfois s'adressent à quelques personnes sans forcément chercher de résultats. Et puis, ce n'est pas le même métier que de vendre des places de théâtre. Que de communiquer, que de faire une affiche. C'est pas, ça a à voir et en même temps, c'est complémentaire et en même temps, c'est pas le même mouvement. Donc, j'ai eu tendance un petit peu à identifier ces deux mouvements-là. C'est pour ça que Blandine Dujardin est en charge de l'ensemble des actions de médiation, des actions culturelles, des actions d'humanité. On va le dire, n'ayons pas peur des grands mots. Et puis Renan Hénard est lui plutôt à l'endroit de donc pour Blandine des choses qui vont plutôt vers les gens et puis Renan est plutôt à l'endroit de essayer de faire venir les gens parce que je crois que c'est la pratique artistique se joue vraiment dans ce mouvement dans ce va-et-vient dans peut-être même dans l'espace qu'il y a entre les deux les gens et la culture du centre. Voilà, donc Renan, il sera en charge de, effectivement, la communication, la vente, l'accueil du public, l'avant, l'après-spectacle, le marketing culturel. N'ayons pas peur des mots. N'ayons pas peur des mots parce que si on en croit le dernier rapport décennal du ministère de la Culture, c'est une grande majorité, écrasante majorité, de Français qui ne fréquentent pas les salles de spectacle vivant. Combien, non? 79%?
81% en 2018.
81% des Français en 2018 n'ont pas fréquenté de salles de spectacle. Mais à un moment, quand on est en charge, en responsabilité publique, c'est un chiffre dont on doit vraiment s'emparer et vraiment se reposer la question de comment on a fait pour oublier les gens et comment on a fait pour se faire oublier des gens. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se confronter à ces questions-là vraiment frontalement et passer à la fois une action de communication, essayer de retrouver les gens qui ont les moyens d'aller au théâtre pour leur redonner cette habitude culturelle et à la fois prendre le temps et se donner les moyens d'aller vers des gens qui, depuis bien trop longtemps et parfois même depuis des générations et pour différents motifs, se retrouvent discriminés à l'endroit de leur pratique culturelle.